pour investir, l'actu du patrimoine.
L'actu de votre patrimoine, c'est la boîte à outils de cette émission, on ne change pas, hein, l'actu patrimoine avec Barbara Thomas David, un notaire à Paris. Bonjour maître.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'on a passé tout le début de saison, là, à entrer à penser que les gens allaient prendre leurs sous, allaient les mettre au Luxembourg. Bon, allez, on a remis le couvercle, rien de presse, il ne faut jamais réagir à chaud aux choses. Il y a un phénomène sur lequel il faut être encore plus prudent, c'est quand on veut s'expatrier soi-même, pas nos sous, mais nous. C'est parce que c'est quelque chose qui se prépare très en amont et sur un cadre réglementaire qui bouge aussi jour après jour. Donc, il faut être précis. Merci d'être là pour nous en parler. Il y a notamment des réformes de la législation qui vont entrer en vigueur et qu'il faut bien regarder quand on prépare son expatriation. Alors, lesquelles ?
Alors, quand on part, on a un rêve de changement, de se retrouver à l'étranger dans un nouveau job ou de faire ses études à l'étranger. Et on oublie des fois le côté administratif, les papiers. C'est-à-dire que on pense que son extrait d'acte de naissance, son passeport, son diplôme, puisque c'est un acte finalement civil français, c'est un acte public français, on pense que bah, il va être valable immédiatement à l'étranger. Or, c'est pas vrai du tout. Quand vous voyagez, votre extrait d'acte de naissance, votre diplôme, votre acte de mariage, bah, tout ça, il faut que ça soit apostillé, soit légalisé. Sinon, c'est pas valable à l'étranger. Et donc, c'est une formalité qui était un peu complexe parce que l'apostille ou la légalisation, hein, ça dépend le terme, c'est des termes barbares, mais ça dépend du pays où vous allez vous ancrer. Eh bien, ces documents, il va falloir les faire. Donc, avant, c'était soit le ministère des Affaires étrangères, soit les cours d'appel qui délivraient ces documents. C'était long, compliqué. Alors, la législation, elle s'est simplifiée depuis le mois de juin. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir aller voir votre notaire. C'est un guichet unique, votre notaire.
Très bien.
Pour aller faire légaliser et apostiller les actes. Déjà, c'est bien parce que vous allez voir votre notaire, vous allez pouvoir lui poser des petites questions par rapport à cette expatriation. Et puis, il va s'occuper via une plateforme. Il y a 15 centres de légalisation ou d'apostille en France maintenant. Et il va donc pouvoir s'occuper de ces démarches pour vous. Le temps de traitement, c'est assez court, parce que c'est 3-4 jours, vous voyez, donc...
Ah oui, là, on est loin des délais courts, quand on saisit la justice, etc., ça prend des proportions dingues. Là, oui, effectivement,
là,
c'est quelques jours.
Là, le notariat s'est engagé, on a une mission de service public, en fait, on devient au cœur de la mobilité des Français à l'étranger. Et donc, du coup... 3-4 jours à partir du moment où tous les documents sont OK pour l'apostille ou la légalisation. Et le coût, c'est entre 10 et 20 euros. Donc, vous voyez, c'est pas très cher. Et ça permet de simplifier la vie des Français qui partent à l'étranger.
Alors, souvent, on peut partir seul. On part en famille aussi. On part à 2, à 3, à 4. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales dans les critères qui sont retenus, dans les différents papiers que vous allez demander, etc. Est-ce qu'il y a des dispositions précises quand on part en famille par rapport aux expatriations solo, on va dire ?
Oui, c'est déjà un moment de faire le point sur est-ce que je suis dans mon bon mode de conjugalité ? C'est-à-dire que je suis célibataire, je suis paxé, je suis marié. Déjà, est-ce que...
Et sous quel régime, par exemple ?
Exactement, c'est-à-dire que... Est-ce que là, je suis célibataire, est-ce que je me marie ? Et deux, si je me marie, sous quel régime ? Et puis, si je suis mariée, est-ce que le régime que j'ai adopté, il y a 10 ans, il est toujours bien alors que je m'expatrie ? Par exemple, vous êtes en communauté, peut-être qu'il faut passer en séparation de biens parce que j'ai un job à l'étranger qui est un job risqué, je monte une boîte, donc est-ce que c'est pas le moment de changer de régime et de me mettre en séparation de biens ? Ou à l'inverse, je suis en séparation de biens, mon conjoint abandonne son job, fait une pause pour me suivre, est-ce que c'est pas le moment de rétablir l'équité et de me mettre en communauté pour que justement ce salaire qui est unique, il soit partagé au sein du couple ? Vous voyez, il y a tout un tas de questions comme ça. Puis il y a une deuxième question qui est-ce que mon contrat de mariage, il va être, si vous voulez, reconnu à l'étranger ?
Bien sûr.
Donc c'est bien de dire dans son contrat de mariage c'est un contrat français, c'est la loi française qui s'applique, et si je divorce, je veux que ça soit la loi française qui s'applique. Autre exemple, le PACS, il n'est pas reconnu dans tous les États dans le monde.
Bien
Donc,
sûr.
Vous voyez, c'est vraiment des sujets d'importance qu'il faut traiter avant de partir.
Et puis, deux autres aspects qui sont très, très importants. Patrimoine immobilier, on s'expatrie, qu'est-ce qu'on fait de sa maison ?
Exactement.
Est-ce qu'on loue ou est-ce qu'on achète plutôt à l'étranger ? Et puis, bon, bah, faut penser à tout. Si jamais on décède, comment les biens sont transmis quand on est expatrié à l'étranger ? Enfin, tout ça, c'est des problématiques assez complexes.
Oui, oui, c'est pour ça, encore une fois, le passage chez le notaire, c'est quand même vraiment, à mon avis, quelque chose d'essentiel. Votre bien immobilier, vous avez un bien en France, qui est votre résidence principale. Vous savez que si vous la vendez, vous êtes exonéré de plus-value, jusqu'à présent. Quand vous partez à l'étranger, si vous dites la bonne affaire, je vais louer ce bien, le conserver, le louer, vous perdez le bénéfice de la résidence principale. Donc là où vous avez l'impression de gagner de l'argent parce que vous louez le bien, bah vous allez en perdre ailleurs au moment où vous allez le revendre en termes de plus-value. Donc il faut faire les calculs. Pareil quand vous achetez un bien à l'étranger, sous quel régime vous allez l'acheter ? Parce que, encore une fois, votre État étranger, peut-être qu'il ne reconnaît pas votre contrat de mariage et vous allez vous retrouver avec une loi étrangère qui est prégnante par rapport à votre loi nationale.
D'accord.
Ou bien vous dire qu'il y a une clé, c'est que l'immobilier à l'étranger, il obéit à la loi étrangère. Vous aurez beau dire non, mais mon contrat de mariage français, c'est ceci, c'est cela. Mmh. En matière d'immobilier, c'est le droit étranger qui s'applique quand vous êtes là-bas à l'étranger. C'est très difficile ensuite de faire réappliquer le droit français.
Et donc la transmission, la succession ?
Alors la transmission, vraiment moi un conseil, faites un testament international avant de partir avec vos volontés et ce qu'on appelle la professio juris. La professio juris, c'est de dire, je suis française, je veux que la loi française s'applique à mon testament. Vous vous souvenez de l'histoire de Johnny, qui n'avait absolument pas fait de professio juris, ça a créé des vrais conflits. Donc, effectivement, faites un testament international avec un notaire français, puis doublez-le dans le pays d'accueil d'un autre testament.
Maître, merci. Hein, avec Barbara David, on était là en train d'ouvrir et de refermer la boîte à outils de cette émission. Encore une fois, très utile, des conseils très pratiques, très précieux. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et on vous reçoit très très vite pour un nouvel aspect juridique, très important pour contrôler votre patrimoine, quelles que soient les situations.